Seigneur, nous te remercions pour cette célébration de Noël. Je prie vraiment que tu nous aides à ne pas tomber dans la tradition, dans la routine, mais à voir ce que ta parole a à nous dire, comment elle peut nous encourager à te consacrer nos vies, Seigneur, parce que tu es un Dieu tout-puissant. Tu es un Dieu plein d'amour qui a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Seigneur, touche, parle à nos cœurs ce matin. Nous pensons à tous nos frères et sœurs qui célèbrent cette grande fête de Noël de par le monde, dans notre ville, dans notre région, dans notre pays, Seigneur, et partout, oui, c'est vrai. On prie que cette célébration de Noël te glorifie vraiment et qu'elle touche ceux qui ne te connaissent pas encore. Aide-nous à être tes ambassadeurs, aide-nous à être ceux qui donnent envie à ceux qui ne te connaissent pas de te découvrir. Parce que tu es un Dieu merveilleux et l'histoire de Noël le raconte bien, Seigneur. Sois béni ce matin, touche nos cœurs et nous prions pour tous nos frères et sœurs qui sont retournés pour un temps dans leur famille, pendant les vacances, dans leur pays, Seigneur. On pense à tous ceux qui sont dans la joie de retrouver leur famille. On pense aussi à ceux qui sont dans le deuil en cette période de Noël. Et la joie est tellement impliquée par Noël, qui est vraiment un moment de joie parce que tu as fait une chose formidable, qui nous remplit et nous comble de bonheur, mais ceux qui sont dans le deuil le ressentent encore plus cruellement. Je pense à Floris et Marina et leur frère, le frère de Sarah, Josué, qui est décédé il y a quelques mois. On pense à ceux qui passent Noël pour la première fois sans leur conjoint, on pense à Sam Jubran, on pense à d'autres personnes, on pense à tous ceux qui sont dans la peine alors que tu voudrais que ce soit un moment de joie, Seigneur. Sois béni, sois glorifié parmi nous ce matin. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Ce matin, j'aimerais parler de l'incarnation de Jésus. Dieu devenant chair et venant vivre parmi les hommes. On a un auteur chrétien anglais qui racontait ou qui résumait Noël en disant « Le Fils de l'homme est devenu homme pour permettre aux hommes de devenir les enfants de Dieu. » Il a ajouté qu'en fait, le miracle principal dans toute la Bible pour les chrétiens, c'est le miracle de l'incarnation. Et qu'en fait, le fait que Dieu se soit fait homme, c'est derrière tous les autres miracles qui peuvent être décrits dans la Bible. Et il disait aussi dans l'histoire chrétienne, qui est l'histoire, la véritable histoire, Dieu descend pour remonter. Il descend des hauteurs d'être un être absolu dans le temps et dans l'espace, et il descend dans l'humanité. Mais en fait, s'il descend comme ça, c'est pour remonter un jour et pour ramener avec lui un monde brisé vers les cieux. On va lire Matthieu 1, 18 à 25. Je lis dans la Bible à la colombe, pas la colombe, je lis dans la Bible second 21. C'est la Bible que vous pouvez demander si vous n'avez pas amené votre Bible. Et on vous encourage bien sûr à vous procurer une Bible personnelle sur laquelle vous pourrez écrire, vous pourrez faire des notes. Matthieu 1, 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. On va regarder quelques-uns des éléments qui sont sous-jacents dans ce texte bien connu, j'allais dire des fois trop connu, pour qu'on fasse l'effort d'y trouver quelque chose. Et ça, c'est le danger de la trop grande familiarité avec certains passages bibliques. Il est important de les lire peut-être dans d'autres versions, de faire abstraction de ce que l'on sait, pour pouvoir redécouvrir et peut-être découvrir des choses qu'on n'avait pas vues avant. La première chose à noter sur cette incarnation, c'est que tous ces événements se déroulent suivant des prophéties. Des prophéties prédictives. Aujourd'hui, on parle des fois de prophéties. Prophétiser, ça veut dire mettre en avant, déclarer avec force devant d'autres. Là, il s'agit de prophéties prédictives. Et c'est simplement Dieu qui dit à l'avance des choses qui vont arriver. Sa parole nous dit qu'il est en fait le seul à pouvoir faire cela. Et donc c'est pour lui comme une signature, une façon d'authentifier ce qu'il nous dit. Si on regarde dans Ésaïe 46 versets 9 et 10. Alors Ésaïe, il faut aller sur la gauche, avant les petits prophètes, avant Daniel, Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe. Ésaïe, mes amis, 46, 9, 10 nous dit « Souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. » Il n'y a pas d'autre personne dans l'humanité qui ont fait des prophéties comme on les trouve dans la Bible. L'apôtre Pierre nous en a parlé dans 2 Pierre 1, verset 19, on va la seconde lettre de Pierre. Il nous explique qu'en fait la Bible, c'est pas un récit qui a été mis au point par des gens qui se sont retrouvés, qui ont dit qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir monter une nouvelle entreprise. On va prétendre ceci, on va écrire cela. Et il dit, verset 16 de 2 Pierre, chapitre 1, « En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est à vrai avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation ». Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et puis, verset 19, nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc il y a une qualité fantastique des prophéties que l'on trouve dans la Bible qui authentifie le message comme étant un message qui vient de Dieu. Et dans notre passage que nous avons lu, on trouve des références à des prophéties. Alors si vous avez une Bible avec des notes, peut-être, ou une Bible d'études, vous verrez qu'il y a une référence lorsqu'il est dit au chapitre 7 d'Ésaïe, verset 14. On peut s'y tourner, donc revenez vers Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Ici, au verset 23 de Matthieu 1, Matthieu répète le même texte tiré donc de Ésaïe 7, 14. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Et là, Matthieu explique ce que Ésaïe ne faisait pas, que Emmanuel, ça signifie Dieu avec nous. Alors, on va pas prendre le temps de replacer le contexte d'Ésaïe. On sait qu'il y avait une prophétie immédiate d'une vierge qui allait donner naissance à un enfant. Mais cette prophétie, elle pointe vers la réalisation de Noël, de cette vierge qui allait donner naissance à un fils. Et ce serait un signe. On va y revenir. Ensuite, une autre référence à la prophétie, c'est que c'est le passage d'Ésaïe 9,5. Il faut vous replacer un peu dans le contexte. Nous, on dit c'est tel passage, et puis c'est un autre passage. On prend notre téléphone portable, ou notre ordinateur, on peut aller choisir un passage et puis un autre. C'est un peu comme on tire des choses. En fait, à l'époque, tout était sur un rouleau. Donc ils commençaient à lire et ils arrivaient à ce passage qu'on vient de lire, qu'une vierge allait donner naissance à Emmanuel. Et puis un peu plus loin, ils arrivaient à ce que nous appelons maintenant le chapitre 9, qui nous dit « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. » On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cette autre prophétie, c'est le Fils qui est donné. Et on voit aussi que cette prophétie, elle est Il y a une autre référence lorsqu'il est pour la naissance de Jésus, ça on le voit dans le lieu où il est né. C'est à Bethléem, et là on a une autre grande prophétie de Michée, Michée 5, un des petits prophètes. Encore une fois, le terme de petit, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins importants, ça veut simplement dire qu'ils ont produit moins, ils ont écrit moins de volume, moins de textes que ceux qu'on a tendance à appeler les grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel. Et Michée nous dit, il nous donne l'endroit de la naissance du Messie. « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. » On avait, en étudiant il n'y a pas très longtemps, le prophète Michée, on avait expliqué qu'en fait il y avait plusieurs villes qui s'appelaient Bethléem, qui veut dire la ville du pain. Beth, c'est la ville, la cité, et Lechem, c'est le pain. C'est approprié pour le pain de vie, qui est Jésus, bien sûr. Et ça parlait directement de cette ville. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus et sa famille n'habitaient pas à Bethléem. Ils s'y sont retrouvés par l'intervention de Dieu qui a commandé qu'un census, il y a un recensement, en anglais census, qui se fasse dans la ville d'origine des familles. Et bien que la famille ait habité Nazareth, la prophétie de Ésaïe, de Michée 5.1 ou 5.2 en anglais, dans les Bibles anglaises, puisse se réaliser. Jésus s'est retrouvé à Bethléem pour naître. Ses parents se sont retrouvés et c'est l'épisode de la crèche que nous reproduisons avec nos santons de Provence, etc. Mais ça remonte à ces prophéties. Il est dit que c'est l'expression chez le prophète Michée, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. C'est donc quelqu'un qui allait naître et qui allait être régné sur Israël. Et puis il est dit qu'il allait, ses origines, ça c'est la traduction de la seconde 21, et je vous invite toujours à lire les textes bibliques plutôt dans un texte interlinéaire qui vous montre les mots et vous met le mot à mot. En fait, mieux que origine, ce sont les allées et venues sont connues depuis le passé, depuis l'éternité. Et ces allées et venues, pour les Juifs de l'époque, ils savaient que Dieu était apparu dans l'histoire sous une forme humaine. Dieu n'était pas humain, mais il se présentait sous une forme humaine. On parle des fois de théophanie, c'est-à-dire d'apparition de Dieu qui ressemble à un homme. On a parlé dans l'étude des petits prophètes, Zacharie notamment, qu'on est en train de terminer bientôt. Zacharie parle souvent de l'ange de l'Éternel. Et on a dit que ça, c'était une apparition, c'était une référence à Jésus pré-incarné. C'était Jésus avant Noël qui pouvait se présenter. Il est Dieu, il a toute puissance pour apparaître sous la forme d'un homme. Et ce terme de l'ange de l'Éternel apparaît à maintes et maintes reprises dans la Bible. Et donc ces allées et venues, lorsqu'on le voit qui devient homme, qui se présente comme un homme et puis qui repart dans sa majesté infinie, ça c'est ce qu'on appellera l'origine. Et ça remonte loin dans le passé. Ça remonte loin. on peut dire soit depuis toujours ou depuis les temps anciens. Et c'est vrai que, vous savez que Matthieu et Luc nous donnent des détails précis sur la naissance, nous relatent les faits entourant la naissance de Jésus-Christ. Luc en particulier, qui était médecin, nous donne des détails très, très pertinents, très dignes de foi. Luc, c'était pratiquement un historien. Toutes les révélations historiques, toutes les mentions de faits historiques qu'il a pu mettre dans son texte ont été vérifiées par l'histoire non chrétienne. C'était un homme tout à fait digne de foi. Matthieu donnait aussi des détails. Et il s'intéressait à montrer aux Juifs que Jésus remplissait vraiment le rôle qu'ils attendaient du Messie, qu'il remplissait, que c'était lui le Messie. Marc, on l'étudie le jeudi soir, lui, il saute ces événements et il parle tout de suite du ministère de Jésus. Et on voit Jésus qui enseigne, qui guérit, et on n'a pas de détails par Marc lui-même. Et puis, le quatrième évangile, l'évangile de Jean, lui, il remonte à l'éternité ancienne. Et on a ces merveilleux, on peut s'y tourner, dans Jean. Au tout début de l'évangile de Jean, au commencement, la parole existait déjà. Donc, on peut aller se dire, bon, je vais penser au commencement. Et on m'a dit, tu es encore loin du compte. Au commencement, il était déjà là. Il était là de toute éternité. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En effet, il y avait la vie, en elle, pardon, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Puis un peu plus loin, au verset 14, il nous dit « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. » Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc là, on a les quatre évangiles qui parlent de Dieu. Deux décrivent précisément les faits de la naissance. Et si on continue, donc c'est pour ça qu'on peut dire depuis les temps anciens, mais aussi depuis toujours. Depuis toujours, il a, pour reprendre la prophétie de Michée, si on continue dans la suite du récit de Matthieu, il y est question, là aussi il figure dans la crèche, dans la représentation d'une... Encore une fois, le terme de crèche... nous fait penser à quelque chose de très beau, de très délicat, de romantique. On a les santons de Provence, on a les belles sculptures, on peut aller visiter des crèches à Lucéram, dans l'arrière-pays, j'y suis jamais encore allé. Il y en a qui ont déjà vu les crèches de Lucéram, c'est un endroit à aller voir, on m'a dit. Et en fait, la réalité, c'était que ce n'était pas un endroit glorieux, une crèche. Une crèche, c'était une auge à bestiaux qui était pleine de bave, des animaux qui se nourrissaient, de poussière, de graines. Il devait y avoir des graines qui commençaient à pousser. C'était pas glorieux du tout, mais c'était là que notre Dieu a choisi, par humilité, de venir dans notre monde. Et on parle dans le chapitre 2 des hommes savants et sages qui venaient de l'Orient. On parle des mages. Souvent la tradition, la culture chrétienne traditionnelle parle de trois mages. En fait, il n'y a aucune indication qu'ils étaient seulement trois. Melchior, Gaspard et Balthazar. Il y en a trois parce que il y avait trois types de cadeaux Donc les gens se disaient, il y en avait un qui portait l'or, l'autre qui portait la myrrhe et l'autre qui portait l'encens. Donc on va leur donner un nom, Gaspard, Melchior et Balthazar. Peu importe, ce qui compte, c'est qu'ils avaient été avertis, on ne sait pas trop comment. Il est possible que les Juifs qui avaient habité en Perse, ils venaient de Perse, de l'Orient, de cette région du monde, peut-être que les Juifs qui avaient été dispersés leur avaient parlé des prophéties de Michée, et toujours est-il qu'ils étaient à la recherche du roi des Juifs qui venait de naître. On étudie dans le livre de Marc, on a évoqué la dynastie des Hérodes. Le roi Hérode, ça a commencé avec le roi Hérode le Grand, qui est mort en un peu de temps avant Jésus-Christ. Et puis, on voit dans le récit des évangiles, Hérodias, une petite descendante qui est mariée avec Hérode Agrippa, etc. Peu importe, ici il est question du premier. Lui, il n'était pas vraiment juif. Il descendait de Ésaü. Il était édomite ou idouméen, comme on utilise des fois le terme. Et en fait, il avait été nommé roi, pas parce que le titre lui revenait, il ne descendait pas de la lignée de Judas qui devait avoir les rois. Il descendait donc de Saül. Il n'avait aucune raison. C'était un usurpateur. Il avait réussi à obtenir le poste de roi, ou la dignité de roi de Judas, d'Israël, par les Romains. Il savait que les Romains savaient qu'on pouvait compter sur lui, les Juifs et leur religion un peu folle étaient moins sûrs. Donc il l'avait nommé. Et on sait par ailleurs qu'il avait une nature très paranoïaque. Il est appelé le Hérode le Grand, non pas parce que c'était un homme qui avait fait de brillantes décisions politiques ou qui avait contribué au bien de son peuple, mais c'est surtout parce que c'était un grand bâtisseur. C'est lui qui a reconstruit le temple à Jérusalem, qui l'a embelli. C'est lui qui a construit la forteresse de Massada. Et donc, il était assez paranoïaque. Et quand il a entendu qu'on cherchait le roi d'Israël qui devait naître, ça l'a mis dans une rage folle. Et c'est pour ça qu'il a fait tuer les enfants de... les bébés qui pouvaient avoir son âge lorsqu'il a su que cette prophétie était en place. Et la nature de cet homme, je ne parle plus de Judas mais de Jésus, c'était de régner sur Israël. Il était, encore une fois, de toute éternité. Et on a parlé des moments où Dieu s'était montré aux hommes sous une forme humaine. Dieu restait Dieu. Là, avec Jésus, Dieu se montre comme Dieu et comme homme. Il est vraiment Dieu et il est vraiment homme. Dieu à 100%, homme à 100%. Ça, c'est un test pour savoir si ce que l'on vous raconte, sur ce que les sectes vous disent, les sectes vont toujours renier la divinité de Jésus-Christ. Ça va être le frère de l'ange Michael, ça va être le frère du diable, mais jamais les sectes vous diront ou reconnaîtront qu'il est Dieu lui-même. Donc, il est important de voir que cette naissance, que Noël, c'est encore pas une fois une invention d'hommes qui ont dit on va créer une religion, ou de commerçants qui se sont dit il faut rebooster un peu le commerce en cette fin d'année, on va faire des lumières, on va faire des offres de cadeaux, etc. Non, c'est vraiment Dieu qui avait prophétisé ces événements. Ça, c'est très important à réaliser. On a dit que Le grand miracle, c'est Noël. C'est Noël et dans ce miracle, Dieu qui se fait chair, j'aime bien dire que c'est un peu comme s'il se revêt d'un costume d'homme. Pour être dans l'espace, vous avez besoin d'un scaphandre. Si vous cassez votre casque ou si il y a une déchirure de votre combinaison spatiale, vous êtes mal barré, comme on dit. Et là, pour vivre sur la terre, Dieu s'est revêtu d'un costume d'homme en venant se faire homme. Mais il y a un miracle là, c'est le miracle de la naissance par une vierge. C'est là qu'on rejoint cette prophétie d'Ésaïe 7,14 que nous avons lue. Alors, on parle souvent de la, en anglais, la virgin birth, ou en français de la naissance virginale. Il vaudrait mieux parler de la conception virginale, parce que la naissance elle-même, elle s'est passée pour Marie comme elle s'est passée pour Lindsay, pour toutes les mamans ici, par les voies naturelles. Mais c'est une vierge qui a porté cet enfant. On a bien sûr des gens qui ne veulent pas reconnaître le miracle de Noël, qui ne veulent pas reconnaître la vérité biblique. Et ils essayent de dire qu'en fait, dans la prophétie d'Ésaïe 7,14, la jeune fille qui va porter un enfant, qui va s'appeler Emmanuel, qui va régner sur Israël, ils disent qu'en fait, c'est le mot « Alma ». Vous pouvez vous rappeler du Zouave, du pont de l'Alma, non ? Alma, A-L-M-A-H, qui est utilisé pour « jeune fille ». Et ils disent qu'en fait, ça veut simplement dire « jeune fille », qui avait un autre nom pour désigner une vierge, une jeune femme qui n'avait pas eu de relation sexuelle, qui n'avait jamais encore eu de relation sexuelle avec un homme, qui était le mot « Bétula ». Et ils disent que ici, c'est le mot « Alma », simplement une jeune fille. Ce qu'il est intéressant de comprendre, c'est qu'en fait, ce mot de « Bétula », de « Alma », il est utilisé dans la Bible 6 fois seulement ailleurs. Dans la Genèse 24-43, l'Exode 2-8, le Psaume 68-25, Proverbe 30-19, Cantique des Cantiques 1-3, Cantique des Cantiques 6-8. Si vous voulez, je vous donnerai les références. C'est simplement pour vous dire que c'est précis et que à chaque fois, cette jeune fille, ce terme qui est utilisé pour une jeune fille, c'était aussi, ça désignait une jeune fille non mariée qui avait gardé sa chasteté. Mais la preuve, en fait, c'est que la traduction qui a été faite par les Septante, c'était 70 sages érudits juifs qui habitaient à Alexandrie. Cette traduction, elle a traduit ce mot de jeune fille par un mot qui signifie exactement vierge en grec, qui est le mot parthénos. Vous connaissez le grand monument, vous avez entendu parler, si vous ne l'avez pas vu, le Parthénon à Athènes, ça vient de ce mot de vierge en grec. Et cette conception virginale, c'est essentiel. C'est vrai que pour les non-croyants, c'est difficile d'admettre qu'il y ait la conception d'un enfant, d'un homme, sans l'intervention d'un père. Et c'est tellement difficile à comprendre que même Joseph avait du mal à croire à la fidélité de sa femme lorsqu'il a compris qu'elle était enceinte. On va regarder l'autre passage qui nous donne quelques détails. C'est Luc, au chapitre 2, qui nous décrit la naissance de Jésus à Bethléem. J'ai dit Luc 2, c'est Luc 1, On va lire à partir du verset 26. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. La conception virginale donc est essentielle au récit de Noël, mais elle est essentielle pour recevoir et accepter toute la révélation divine de la Bible. Elle est là, elle est essentielle pour affirmer la véracité de la Bible. Ça a été prophétisé, encore une fois, c'est ce fameux passage d'Ésaïe 7, 14, et j'aime bien la remarque qui... où il est dit que ce sera un signe. Ésaïe 7, 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ça, c'est dans le texte d'Ésaïe. Et quelqu'un faisait remarquer que quel signe ce serait qu'une jeune fille donne naissance à un fils. Ça arrive... Une jeune fille même non mariée, ça arrive de plus en plus, parce que maintenant le mariage est considéré comme quelque chose de rétrograde ou de vieux jeu. C'est pas un signe qu'une fille tombe enceinte. C'est bien le fait qu'elle était vierge et qu'elle donne naissance qui confirme que la prophétie s'est réalisée. C'est la véracité de la Bible qui est essentiellement annoncé par cette conception virginale. Cette conception virginale, elle est essentielle pour affirmer la divinité de Jésus-Christ. On a vu le récit de Luc, c'est l'ombre du Très-Haut, c'est le Saint-Esprit survenant sur Marie qui va concevoir l'enfant Dieu. Alors c'est vrai que si vous refusez de croire au miracle, vous allez rejeter Noël, vous allez rejeter la foi, vous allez rejeter la Bible et vous allez rester tout seul dans vos péchés. Si vous pouvez accepter le premier verset de la Bible, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », alors vous ne devriez pas avoir de problème avec les miracles. Aujourd'hui même, on est impressionné devant ce qu'on appelle les miracles de la science moderne. Mon père, qui est décédé voilà près de 50 ans, un peu plus de 50 ans, était un passionné de science et de gadgets. On a été les premiers dans le quartier où on habitait à avoir un poste à transistor. À l'époque, c'était un boîtier assez grand où il y avait un, un, une aiguille à ajuster, ça grésillait. Mais il écoutait le Tour de France. Quand on allait faire un pique-nique, il écoutait la course du Tour de France sur son transistor. Il était tout content parce qu'on lui avait présenté, on lui avait montré un ordinateur. Vous savez, ces vieux ordinateurs comme dans les vieux films, avec les bandes qui tournent, avec des lumières qui s'allument de partout. Et des fois, je me dis, s'il revenait aujourd'hui, il croirait en Dieu. Parce qu'il verrait tous les miracles de la technologie. Il verrait qu'on peut envoyer des photos en un instant de partout sur la Terre. Et on s'aperçoit que ces miracles de la technologie, c'est rien comparé à la puissance divine, mais on ne pouvait pas les concevoir il y a 50 ans. Ou encore, à plus forte raison, il y a 100 ans, ou 200 ans, ou 1000 ans. Et on s'aperçoit qu'en fait, ces choses sont possibles. Et pour moi, si ces choses sont possibles, il est possible que Dieu existe et qu'il ait fait ces miracles et cette puissance incroyable dont nous voyons un peu des petits reflets dans le génie de l'homme et ce qu'il peut faire avec la technologie. Mais c'est vrai que si on ne croit pas au miracle, on va dire c'est pas possible. Mais cette naissance par la puissance de Dieu, elle est essentielle pour assurer la divinité de Jésus-Christ. Si cette conception, donc le fait que l'enfant ait été conçu de façon par le Saint-Esprit dans le corps d'une jeune femme vierge, c'est essentiel pour affirmer l'humanité sans péché de Jésus-Christ. Jésus s'est fait homme. Il a fallu couper le cordon ombilical de ce petit bonhomme. Alors on a encore là aussi le romantisme des violons, il est né le divin enfant. Il est la douce nuit, pas un cri, ne pleurez pas dans l'étable. Mon œil, il pleurait, il fallait le changer, il avait faim. Il s'est fait homme, il s'est humilié jusqu'à devenir un homme parmi nous. Il s'est même humilié plus loin, puisqu'on va y en venir, il s'est humilié jusqu'à la croix. S'il n'y a pas de naissance virginale, de conception virginale, alors Jésus n'était qu'un homme, comme vous et moi, un homme ou une femme au sens large, un homme, un être humain comme vous et moi, né avec la tâche originelle du péché. Et s'il n'y a pas de pureté absolue, si Jésus était né avec un être de pécheur, à ce moment-là, il n'y aurait pas de salut possible. Et certains chrétiens vont vous dire « Oh, c'est pas bien grave l'histoire de la naissance de Jésus-Christ, c'est Noël, c'est tout. Après, il y a des grands principes moraux, il est mort, il a aimé les autres. Il a dit aux hommes « Aimez-vous les uns les autres, faites aux autres ce que vous voulez, vous voudriez qu'ils vous fassent. Oh, c'est un grand homme, un grand... » Non, c'est pas ça. S'il n'y a pas eu de naissance d'une vierge, conception d'une vierge, il n'y a pas de sauveur. Et Jésus, ce serait le fils de Joseph. Peut-être un homme respectable, mais s'il n'y a pas de miracle dans le christianisme, il n'y a pas de propagation, il n'y a pas d'espoir. On aurait une religion sans aucun effet. Les apôtres seraient venus vous voir et disaient oh, « On a rencontré un gars vraiment formidable, il est chouette, il fait de la charpente, et puis il nous a dit aussi qu'il faut, si on vous frappait, il fallait tendre l'autre joue, et puis il nous a dit qu'il fallait qu'on s'aime les uns les autres, hein, vive l'amour, il disait, puis il s'est fait tuer. » Mais il nous a dit, il faut croire en lui. Ah bon, pourquoi? Quel serait l'intérêt de croire en un homme pécheur qui aurait fait des belles choses morales peut-être, mais qui ne serait pas parfaitement pur et moral, parfaitement homme sans péché aucun? Et si encore une fois il n'y a pas de conception virginale, s'il n'y a pas de naissance d'une vierge, alors il n'y a pas de sauveur. C'est essentiel pour affirmer que Jésus-Christ est le sauveur. Cette naissance d'une vierge, c'est essentiel. Il y a aussi, on peut considérer dans ce récit de Noël, l'enfant lui-même, il devait être appelé Jésus. Et on sait que les noms bibliques avaient un sens en relation avec les plans de Dieu pour votre vie. Beaucoup des noms ont une composante qui veut dire « Dieu ». Nathanaël, don de Dieu, etc. El ou Jéhovah, Yého. Et Jésus, c'est le mot qui vient de Joshua en grec, qui venait lui-même de l'hébreu Yéhoshua, qui veut dire Dieu est sauveur, ou Dieu sauve, ou le salut de Dieu. Dieu est sauveur. Et il nous est dit qu'il s'appelle aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Lorsque les gens vous disent que Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il était Dieu, c'est un mensonge du diable. Et toute la Bible nous dit que Jésus était Dieu. Il y a un raisonnement bien connu d'un grand écrivain chrétien du début du XXe siècle, C.S. Lewis, qui nous disait que certains vous disent « Je suis prêt à accepter Jésus-Christ comme un grand enseignant moral, mais je ne reconnais pas sa prétention à être Dieu. » Et il dit « C'est une chose qu'on ne peut pas dire. » Il continue en disant « Un homme qui serait simplement un homme et aurait dit les choses que Jésus a dites ne serait pas un grand professeur de morale. Ce serait soit un fou, au même niveau que le gars qui vous dit qu'il est Napoléon en mettant sa main sur son ventre, ou autrement, il serait même le diable de l'enfer. Vous devez faire votre choix. » Ou bien cet homme était et est aujourd'hui le Fils de Dieu, ou bien c'était un homme fou, ou encore quelque chose de pire. Vous pouvez essayer de dire que c'était un fou, vous pouvez lui cracher dessus et l'exorciser ou le tuer comme un démon, ou alors vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler mon Seigneur et mon Dieu. Mais de grâce, n'allons pas dire qu'il était un grand homme plein de sagesse. Il ne nous a pas laissé cette possibilité. Il n'a pas voulu qu'on ait cette possibilité de dire que c'était simplement un grand homme avec des grands principes moraux, comme un Gandhi, comme un autre homme. Aussi louable sa vie puisse-t-elle être jugée par les hommes. Il est Dieu, et puis il est venu pour une mission. On le voit dans notre texte, et ça c'est quelque chose que nous devons vraiment intégrer dans notre foi. C'est le verset de Matthieu de 21, elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire de Dieu sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est la mission de Jésus-Christ. C'est intéressant. Il vient sauver son peuple de ses péchés. On a On a étudié, on est en train de finir le livre, l'étude du livre de Zacharie, l'avant-dernier des petits prophètes, un prophète d'après l'exil. Et Tonio a enseigné le 11 novembre sur Zacharie 6. Zacharie 6, alors si vous n'étiez pas là, Zacharie, vous allez à gauche à partir de Matthieu, vous allez tomber sur Malachie. Et puis Zacharie. Et dans Zacharie 6, on va lire la prophétie d'une couronne pour le grand prêtre. Zacharie 6, verset 9, « La parole de l'Éternel m'a été adressée. » C'est Dieu qui parle à Zacharie, qui nous rapporte ses propos. « Tu recevras les dons des exilés de Elbaï, de Tobija et de Jehadéja. » Et tu iras toi-même aujourd'hui, tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras l'argent et l'or et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, voici un homme dont le nom est Germe, c'est la racine du mot Nazareth, Nazaréen. Il germera à sa place et construira le temple de l'Éternel. C'est lui qui construira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera sur son trône pour dominer et sera prêtre sur son trône. Et une parfaite union régnera entre les deux fonctions. Les couronnes seront un souvenir pour Elem, Tobija et Jehadéja, et pour En, le fils de Sophonie, dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront construire le temple de l'Éternel. Alors vous saurez que l'Éternel, le maître de l'univers, m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. C'est intéressant de penser que 480 ans avant la naissance de Jésus-Christ, Dieu faisait connaître à son peuple le nom de Jésus. Jésus, Josué, le grand prêtre, à qui on remet la couronne pour être aussi un roi. On a rappelé que on ne pouvait pas être à la fois, dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas être à la fois roi et prêtre. Les prêtres descendaient de la tribu de Lévi, les rois descendaient de la tribu de Juda. Et le seul qui ait pu être à la fois, qui allait être à la fois roi et prêtre, il nous a expliqué que c'est parce qu'il n'était pas prêtre selon l'ordre de Lévi, mais selon l'ordre de Melchizédek. C'était un ordre supérieur, puisque Abraham avait donné la dîme à ce personnage bizarre, mystérieux, Melchizédek, dans l'Ancien Testament. C'est lui qui allait construire le temple, porter la couronne, être le grand prêtre. On sait qu'un roi, comme le roi Ozias, qui avait essayé de prendre des fonctions de prêtre parce qu'il s'impatientait, avait été touché par la lèpre. C'était impossible de joindre les deux. Et donc, ce personnage qui est décrit dans Zacharie, c'est le Messie que les Juifs attendent. Et là, 480 ans avant, il nous est dit que c'est Josué, qui est le même mot que Joshua, qui est le mot de Jésus. Si vous avez des amis juifs qui refusent de croire que Jésus est le Messie, emmenez-les lire Zacharie 6, 9 à 14. Et suggérez-leur que le nom de leur Messie est indiqué et qu'il s'appelle Josué, Joshua, Jésus. Rappelez-leur que Jésus est leur Messie, celui qu'ils attendent encore. Ils vous en seront éternellement reconnaissants si la lumière se fait dans leur cœur. Il est venu sauver son peuple de ses péchés. Les péchés, c'est Il y a trois aspects dans le péché. Il y a le passé. Nous portons la culpabilité de nos péchés. Il y a le présent. Nous sommes sous la domination, nous pouvons être sous la domination, la puissance de nos péchés. Et puis un aspect futur du péché, c'est ce qui va nous condamner dans le futur. On sait que le seul péché qui va nous condamner dans le futur, c'est justement de refuser le Messie, de refuser la solution que Dieu nous propose. Il enlève nos péchés. Nous n'avons plus de culpabilité devant Dieu. Chaque fois qu'on pêche sans connaître Dieu, on accumule le péché. Dans Romains, il est question de l'accumulation d'une colère divine. C'est un peu comme l'eau qui s'amoncelle, qui s'ajoute, qui remplit un barrage de plus en plus haut et qui un jour va casser. En venant à Christ, les péchés sont comme jetés à la décharge. J'ai dans mon portefeuille une petite liste que je garde sur moi. Je n'ai pas fait ça parce que Pascal gardait dans son costume un récit de sa nuit de conversion, mais j'aime bien avoir ces versets en tête. Michée 7, 19, un peu plus loin que le passage que nous avons vu, « Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Psaume 103, 12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. » Psaume 133, « Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister ?» Ésaïe 43, 25, « Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Si vous vous sentez coupable pour les actions, les péchés, les mauvaises choses que vous avez faites dans le passé, les bonnes choses que vous auriez pu faire et que vous n'avez pas faites, les mauvaises paroles avec qui vous avez blessé des gens, des personnes proches même, les mots d'encouragement que vous avez refusé de dire alors que Dieu vous demandait d'encourager, ça c'est la culpabilité du péché. Mais si vous venez à Christ, il ôte le péché, la culpabilité de votre péché. Et puis au présent, on se souvient de Romains 7 où Paul déclare comme un cri, « Je ne fais pas le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et puis il commence, « Gloire soit rendue à Dieu par le Saint-Esprit qui va venir. » En venant à Christ, au présent, le péché qui nous force à faire des choses que nous voulons ne pas faire, cette puissance du péché est brisée. On n'a pas à se soumettre à la puissance de notre péché. Nous avons la force, la puissance de dire non. Et je dois reconnaître que lorsque je me laisse aller à des péchés, c'est que j'ai quelque part sciemment, et c'est très grave, refuser de dire non. On peut tous dire non au péché si on est venu à Christ. Pourquoi ? Parce qu'il nous a sauvés de nos péchés. Et c'est vrai que souvent on dit le péché est plus fort que notre volonté, mais c'est pas nous par notre volonté qui allons nous réformer. On arrive au nouvel an et là on va y aller tous de notre petite liste de bonnes résolutions. Régime, exercice, lecture, plus de télé, plus de Facebook, c'est fini. Instagram, c'est fini. Je vais lire la Bible tous les jours. Mais le péché est plus fort que notre volonté. C'est Dieu qui peut vous aider à vous libérer de toutes ces choses. Et puis, au futur, on a ce combat avec nous, mais un jour viendra où le péché ne sera même plus présent. Ah! Alléluia, gloire à Dieu. Plus avoir à lutter. Et lorsque je crie comme ça, je réagis comme ça, ça montre bien que je ne fais pas toujours appel à la puissance de Jésus, à la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il est là maintenant pour me donner la victoire sur mes péchés. Et puis enfin, les moyens pour que ça arrive. On a dit que Noël, c'était central, c'était l'événement central. On fait des sondages à la fac de lettres qui est à côté. Une fois par semaine, on a un stand avec de la littérature biblique et on engage les gens dans des questionnaires. Et à Noël, on essaye de leur demander, on leur pose la question, est-ce que vous voyez un rapport entre Noël et Pâques ? Et pour 90% des gens, le rapport, c'est le chocolat. Oh ! Pardon, Seigneur. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Encore une fois, c'est Noël, c'est l'incarnation. Pâques, c'est la mort et la résurrection. Mais en fait, ça ne fait qu'un seul événement. Il n'y a pas de croix sans incarnation. L'expiation de nos péchés, il passe par Noël. On se réjouit du petit enfant, on l'oublie un peu pendant 30 ans, il grandit, puis là, il réapparaît et il meurt. Mais encore une fois, c'est ce que disait cet érudit qui nous disait que dans l'histoire chrétienne, Dieu descend pour remonter. Il descend des hauteurs de cette personne absolue, de cet être absolu qu'il était dans le temps et dans l'espace. Il descend dans l'humanité, mais quand il revient, il va remonter et il va emmener avec lui tous ceux qui l'acceptent comme leur sauveur. C'est un merveilleux salut qui nous est offert. Et puis la motivation, je l'ai déjà cité, c'est l'amour. C'est Jean 3,16. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné le cadeau de son Fils, c'est approprié à Noël, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut qu'on connaisse son amour, pas d'une façon générale, oui, Dieu est un Dieu bénévole, bienveillant plutôt. Non, il m'aime personnellement, il t'aime personnellement. Il a de bons plans pour ta vie. Il est essentiellement personnel. Et c'est pour cela qu'il a accepté de se dévêtir de cette royauté. On peut lire Philippiens. Et c'est vrai que, en fait, plus on y pense et plus on réalise que toute la Bible parle de Noël. Plus toute la Bible parle de l'humiliation d'un Dieu qui nous aime, qui est venu mourir pour nous sauver. Que votre attitude, Philippiens 2,5, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Juste pour terminer, une petite histoire d'un homme qui ne pouvait pas croire à la foi chrétienne. Sa femme, par contre, était une femme très, très pieuse et élevait ses enfants dans la foi chrétienne. Et le soir de Noël, elle l'avait invité à venir avec eux à une soirée de Noël à leur église. Il avait dit non, franchement, je peux pas croire à ton Dieu, je peux pas croire à Jésus et à la crèche et à tout ça. Je vais rester, vous y allez. Et donc, le cœur en peine, le reste de la famille est parti, sans doute en priant pour le papa. Et lui est resté à lire son journal dans son beau fauteuil près de la cheminée. Puis il a commencé à entendre comme des coups contre une fenêtre. Et Il a pensé que quelqu'un jetait des boules de neige sur sa fenêtre, et puis il est allé voir, et en fait il s'est aperçu que c'était des petits oiseaux qui étaient perdus par l'orage, par la neige qui tombait, qui se cognaient, qui essayaient de rentrer au chaud dans sa maison. Il ne croyait pas en Dieu, mais c'était un homme qui aimait les animaux. Il disait, je vais quand même essayer de les aider. Il s'est dit, je vais essayer de les amener dans la grange. Là, au moins, il n'y aura pas de neige. Il fera un peu plus chaud. Ils seront mieux pour passer la nuit. Et donc, il ouvre là, il met son manteau, ses bottes, et il sort. Et il commence par mettre des graines devant l'endroit, devant la fenêtre, jusque vers la grange. Et puis, les oiseaux sont complètement paniqués. Ils continuent de se casser la tête contre la fenêtre. Tout est bourriffé, tout affolé. Il essaye de les pousser, et là, ils s'affolent encore plus, ils se font mal, etc. Et il s'est dit, ah là là. Et l'idée lui vient, en fait, il faudrait que je puisse leur parler. Si je pouvais devenir un petit oiseau comme eux, à ce moment-là, je pourrais leur dire qu'il y a la sécurité dans la grange, qu'ils vont être au chaud, qu'ils vont être bien. Et à ce moment-là, les cloches de l'église ont commencé à sonner d'un seul coup. Il a réalisé, c'est exactement ce que Dieu a fait en venant, en s'incarnant, en devenant un homme pour pouvoir avoir une relation, nous expliquer comment vivre et comment croire en lui. Amen. Prions. Seigneur, merci pour le miracle de Noël. Le miracle de l'incarnation et tout ce que cela représente pour tes enfants, Seigneur. Aide-nous à pouvoir en parler autour de nous, à dire des choses qui rompent avec la tradition, qui rompent avec les clichés. On voit que cette fête est devenue essentiellement un événement commercial. Et Seigneur, pardonne-nous si nous aussi nous succombons des fois à cette anxiété de trouver des cadeaux pour tout le monde, de préparer tout pour que tout soit parfait, Seigneur, alors que tu veux simplement que nous te fassions de la place dans nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à méditer en cette saison de Noël sur ce qui tu es, sur ce combien tu nous aimes pour être venu t'humilier en prenant un costume d'homme, en étant tenté en tout péché, mais sans jamais succomber au péché, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Nous prions ces choses par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Pendant que nous sommes encore dans une attitude de recueillement, s'il y en a qui, d'un seul coup, ont réalisé la vérité du message de Noël, que Dieu s'est incarné pour nous ramener avec lui au ciel, en présence de Dieu pour l'éternité, je vous demanderai simplement de lever la main pour qu'on puisse prier ensemble. C'est encore une fois la décision la plus importante que vous puissiez prendre. Si vous le faites, vous pouvez simplement me le signaler en montrant que vous montez votre main. Seigneur, merci. Merci pour ce sacrifice. Sois glorifié dans nos vies, dans nos cœurs. Aide-nous à témoigner autour de nous. Prions ces choses par le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.